Now.
Trois autour de la table, à moins qu'il ne soit six, puisque les trois invités d'aujourd'hui sont des écrivains et qu'ils convoquent chacun une grande figure de la chanson populaire française. Il y a Fréhel, Yvette Horner et Léo Ferré. Et c'est autour de ces trois figures que nous allons lire et chanter à la grande table en leur compagnie. Tout d'abord, Violaine Schwartz, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Votre livre s'intitule « Le vent dans la bouche ». Il vient de paraître aux éditions POL. Ensuite, se trouve avec nous en studio Annie Butor, bonjour.
Bonjour.
Votre livre s'intitule « Comment voulez-vous que j'oublie ?» et il a paru aux éditions Phébus. Et puis il n'est pas tout à fait là, mais là quand même, puisqu'au téléphone depuis Lille, où il va dédicacer son livre ce soir, se trouve Michel Rostin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également à la grande table. Votre livre à vous s'intitule « L'étoile et la vieille » et il a paru aux éditions Kéro. Est-ce que dans les trois cas, il s'agit pour vous de livres d'hommage? Je pose cette première question peut-être à vous d'abord, Violaine Schwartz, parce que vous faites dire à votre narratrice, à propos de votre figure, Fréhel, « C'est pour ça que je suis là et que je m'échine sans relâche, personne ne se souvient de rien. » Et un peu plus tard, vous parlez de l'inoubliable inoublié. Alors il fallait redonner un peu de vie à cette personne qui était une grande figure pour vous.
La narratrice du livre, qui s'appelle Madame Pervenche, en fait, s'est mise en tête de sortir Fréhel de l'oubli. Et c'est vrai que, oui, moi, j'ai découvert Fréhel en faisant un spectacle de chansons avec une contrebassiste.
Parce que vous êtes chanteuse et comédienne.
Voilà,
aussi.
Oui. Et j'ai écouté ses chansons, j'étais très touchée par ses chansons et j'ai lu sa vie et j'étais assez étonnée quand on a fait des concerts, on a fait pas mal. Je me suis rendu compte que très peu de gens la connaissaient encore, en fait, en tout cas de ma génération. On connaît un peu, c'est la Java bleue, mais puis sa vie, pas grand monde ne connaît sa vie complètement extraordinaire et romanesque. Et donc, voilà.
Vous avez eu envie d'écrire un livre. C'est votre deuxième livre, hein,
voilà.
je précise. Pour vous, Michel Rostin, est-ce que c'est un exercice d'admiration, une déclaration d'amour? Vous écrivez, et là c'est à propos d'Yvette Horner, « J'ai réellement été fascinée par la personnalité d'Yvette Horner », alors qu'a priori, et ça on va le voir un petit peu plus tard en parlant de votre livre « L'étoile et la vieille », alors qu'a priori, vous n'écoutiez pas du tout ce genre de musique, Michel Rostin.
Oui. Je ne dirais pas que j'ai voulu écrire un livre d'hommage, mais si à la lecture de mon livre, je lui rends hommage, alors oui, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas écrit pour cela, mais ça, c'est plein d'amour ce que j'ai écrit, plein d'admiration envers elle, plein d'admiration.
Annie
c'est une grande musicienne, oui.
Annie Butor, quant à vous, cette admiration pour Léo Ferré et Madeleine est à nuancer. Peut-être vous prenez la suite de ce que vient de dire Violaine Schwartz dans ce livre « Comment voulez-vous que j'oublie ?» quand elle disait qu'il s'agissait de sortir Fréhel de l'oubli. Là, il ne s'agit pas de sortir Léo Ferré, l'oubli on ne l'a pas oublié, mais peut-être qu'on a plus oublié votre mère, qui était Madeleine, et d'une certaine façon, il s'agit peut-être avec ce livre de réhabiliter la figure de votre mère, et on va venir dans les détails ensuite, donc d'une certaine façon aussi un livre d'hommage.
Un livre d'hommage et un livre, si j'avais une expression à employer, je dirais, pour rendre justice à ma mère, qui a été en même temps que sa femme, plus qu'une collaboratrice, qui l'a aidée chaque jour pendant 18 ans, et qui a ensuite été calomniée par Léo lui-même lors de la rupture, il y a longtemps. Je pensais que ça allait se calmer, et après la mort de Léo, ça a continué par des journalistes, des biographes, peu importe, qui n'ont jamais connu Léo avant, mon Léo, les 18 ans que j'ai connu, et qui ont raconté, d'anecdote en anecdote, absolument n'importe quoi. Donc j'ai tendance à dire, c'est pas ma vérité, je suis un peu comme une survivante, et j'avais envie de lui rendre justice, tout en continuant d'admirer, je tiens à le dire, ce livre, pardonnez-moi si je suis un petit peu longue au début, mais ça me prend à la gorge, ce n'est pas un règlement de compte.
C'est ce que j'allais préciser, alors là, en tant que lectrice, effectivement, ça n'est pas du tout un règlement de compte quand on lit le livre.
Pas du tout.
Pas du tout. Et vous dites qu'il s'agissait de rétablir, de rendre justice après la rupture et après les journalistes qui ont écrit n'importe quoi à ce sujet. Il faut quand même préciser que la rupture entre votre mère et Léo Ferré a eu lieu en 1968.
C'est ça.
Et qu'ils sont tous les deux morts en 1993. Nous sommes 20 ans après.
Oui.
Nous sommes en 2013, Annie Butor. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu aujourd'hui, là, en 2013, envie d'écrire ce livre-là?
Eh bien, précisément, en 2000... D'abord, j'ai beaucoup souffert, quand même après, à la mort de Léo, à la mort de maman. Mais bon, j'ai continué au début à me protéger. Et puis, pour l'anniversaire de ses 10 ans, j'ai entendu sur Internet une émission qui a dû passer à la télévision où il y avait des témoignages de tous les gens qui l'avaient connu. Et ça m'a très étonnée tout de même. Je n'étais pas bavarde, je ne tenais pas à me mettre en premier rang. Mais de voir qu'on ne m'avait même pas demandé mon avis et des gens qui l'avaient peut-être croisé. D'ailleurs, c'est un tic chez moi quand des gens veulent parler de Léo, je leur dis « Quand l'avez-vous connu ?» S'ils me disent « Et c'est le cas !» et c'est leur droit, et c'est la vie. Je l'ai connu en 1970. Bon, on ne parle pas de la même chose. Moi, mon Léo, c'est celui de 1950-1970, en gros. Donc, je ne sais plus ce que vous me demandiez. Votre
première
question.
Je vous demandais pourquoi aujourd'hui, en 2013, 20 ans après leur mort.
Parce que je me dis qu'à la longue, je suis un peu une survivante. Je ne rajeunis pas. Pendant que j'ai encore un peu de souvenirs, que je ne suis pas gaga ni Alzheimer, enfin je ne pense pas. Bon, il est temps que je dise les choses qui n'ont rien d'extraordinaire ou de sensationnalisme, mais qui quand même méritent d'être connues.
Alors il s'agit d'un livre de témoignage, Annie Butor. Dans le cas de L'étoile et la vieille de Michel Rostin, on est entre les deux, puisque vous dites qu'il y a quelques souvenirs et beaucoup de fiction. On est peut-être beaucoup plus dans la fiction avec le livre de Violaine Schwarz. C'est un point commun entre Michel Rostin et vous, Annie Butor, c'est que vous écrivez d'une certaine façon de l'intérieur dans les deux cas. C'est une histoire vécue, l'une avec donc Léo Ferré, qui était votre beau-père, et Madeleine, votre mère, Annie Butor. Et dans votre cas, Michel Rostin, dans L'étoile et la vieille, il se trouve que l'histoire de départ est vraie. Vous avez vécu cette rencontre avec Yvette Horner, et pourtant, dans votre livre, Yvette Horner est devenue Odette. Donc, il y a nécessairement un peu de fiction et un peu de souvenir, Michel Rostin.
Oui, c'est... Je ne revendique pas ça, je n'ai pas pu faire autrement. Pour dire vrai, il faut inventer d'une certaine façon. Pour approcher quelque chose de fort, il m'a fallu me sentir libre. Je n'ai pas voulu raconter la vie d'Yvette, ni même une petite séquence de la vie d'Yvette, parce qu'après tout, cette histoire s'étale sur un mois ou deux. Mais autour d'une rencontre avec elle, qui a réellement eu lieu, et que j'assume profondément, c'est un bel événement de ma vie, j'ai dû me libérer de par rapport au personnage d'Yvette, c'est pour ça que je l'ai appelé Odette, et qu'il a pu, à plein de moments, aller bien au-delà et ailleurs qu'Yvette ne serait allée. Et d'autre part, de moi-même, j'ai parlé du metteur, pour ne pas parler du metteur en scène, d'un nom un peu vulgaire, un peu agressif, le metteur, pour ne pas me piéger dans des souvenirs, des vanités, des illusions. Enfin, vous voyez bien tout ce qui nous guette lorsqu'on parle trop près de soi.
Violaine Schwarz, vous, dans votre cas, tout est inventé à propos de Fréhel ?
Non, c'est-à-dire moi, c'est pas une biographie de Fréhel parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui voue sa vie à Fréhel à la sortir de l'oubli. Elle écrit un livre où elle essaye de raconter la vie de Fréhel depuis des années. Elle se noie dans ses brouillons et en fait, c'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle Madame Pervenche. Pervenche, d'ailleurs, étant un des premiers noms de scène de Fréhel. Avant de prendre le nom de Fréhel, elle s'appelait Pervenche. Et c'est vrai que j'ai construit un personnage, cette Madame Pervenche, un peu en écho à Fréhel. Enfin, elle n'est pas chanteuse, mais elle est envahie par les chansons de Fréhel. Et voilà, et elle s'est mise en tête, en fait, de rapatrier le corps de Fréhel à Paris intramuros. Parce que Fréhel était très connue, mais elle est morte ruinée, comme la plupart de ces chanteuses réalistes. Et elle est enterrée au cimetière parisien de Pantin. Un très grand cimetière, difficile d'accès. Et...
À tel point qu'à la fin de votre livre, voilà. On trouve le plan du cimetière de Pantin à Paris.
Oui, oui. Ben oui, parce que dans ce cimetière, il y a plein de noms d'arbres, enfin il y a beaucoup d'arbres et toutes les avenues s'appellent avenue des Marronniers d'Inde, avenue des Mûriers Blancs, etc. Et ça revient dans le livre en fait, c'est comme un labyrinthe de pensées, un labyrinthe dans les pensées de Madame Pervenche. Voilà, et donc elle se projette le jour où elle arrivera enfin à rapatrier ce corps intramuros. Elle écrit tous les jours au président de la République.
Ça, c'est une fiction quand même.
Oui, tout ça, c'est une fiction.
conversation. Voilà, ce qui est vrai, c'est la vie de Fréhel, dont vous nous donnez quelques éléments dans ce livre.
Voilà, voilà. C'est-à-dire, il y a la vie de Fréhel arrive en mêlée aux pensées du personnage. Voilà, et voilà, elle se projette.
La Java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon.
Vous disiez, Violaine Schwartz, que c'était la chanson la plus connue de Fréhel, la Java bleue. C'est vrai qu'on la fredonne, on la connaît, on l'a entendue tous dans notre enfance. Elle date de 1939. Mm-hmm. Et c'est vrai aussi qu'on connaît nettement moins l'histoire de cette chanteuse qui était née en 1891 et qui est morte en 1951. Et la narratrice, cette pervenche dans votre livre, distille des informations au compte-gouttes. Est-ce que vous nous raconteriez quelques-uns de ces éléments? Donc son vrai nom, c'était Marguerite Bouch, dite pervenche, voilà, dite Fréhel. Voilà. Vous racontez qu'elle a été violée à 9 ans, qu'elle a eu son premier contrat à 14 ans.
Elle est devenue très célèbre. Oui, une vie incroyable. Elle est devenue très célèbre. Elle est partie de chez elle à 11 ans. Elle a vécu sous les ponts, elle dormait dans les bars, etc. Et elle est devenue très célèbre à 14 ans. Elle chantait dans la rue et puis petit à petit, voilà, elle a eu des contrats et tout. Et elle a rencontré Maurice Chevalier, une grande histoire d'amour. Et Maurice Chevalier l'a quittée. Enfin, elle se droguait pas mal aussi. Donc Maurice Chevalier a eu peur, je crois, de cette... de cette guinche insensée, il l'a quittée et elle s'en est pas trop remise. Bon, est-ce que je sais pas.
Maurice est très présent dans le livre. Hein.
Oui, oui, parce que mon personnage, Madame Pervenche, vient également d'être quittée par un homme qu'elle appelle un peu par identification à Fréhel, Maurice. Voilà. Et ensuite, elle a disparu 10 ans dans les pays de l'Est, en fait, Fréhel. Pour fuir cette France qui la rendait trop malheureuse, elle est partie avec la duchesse Anastasia à Saint-Pétersbourg, puis en Roumanie, et puis on l'a retrouvée en 1922, très droguée, à Constantinople. Elle a été rapatriée par le ministère des Affaires étrangères et elle a refait une deuxième carrière, puisqu'elle avait quand même disparu 10 ans. Voilà. Et ce qui est assez fort, c'est qu'elle était magnifique quand elle était jeune. Et quand elle est revenue en 22, elle était quand même un petit peu abîmée par ses excès. Et elle chantait sa vie. Quand elle chante « Où sont tous mes amants ?»« Tous ceux qui m'aimaient tant jadis quand j'étais belle », je pense que c'était très très émouvant de l'avoir chanté ça, quoi, parce que...
Et c'est pour ça que vous avez, vous, Violaine Schwartz aussi, repris donc quelques-unes des chansons de Fréhel, que vous avez enregistrées même, donc ce disque avec la contrebassiste Hélène Labarrière. On va écouter une des chansons que vous avez reprises de Fréhel, qui est d'ailleurs dans le livre, puisqu'à la fin, vous donnez toute la liste des chansons qui sont citées dans votre livre. C'est « J'ai le cafard ».
Non, je suis pas sourd. Malgré que je roule dans toutes les boîtes de nuit, cherchant l'ivresse pour que ma tristesse sombre à jamais dans le bruit, je hais ce plaisir qui m'use, et quand on croit que je m'amuse, j'ai des pleurs plein mon cœur, j'ai le cafard, j'ai le cafard. Je le sens qui me perce comme avec un poignard la cervelle de part en part. Je me débats dans le brouillard, j'ai beau faire, je suis prise et bien prise au traquenard du cauchemar, j'ai le cafard.
Les chansons sont intégrées dans votre texte, Violaine Schwartz, en italique, au milieu d'une phrase. On pourrait même dire que votre roman est construit comme une chanson avec un refrain. Vous allez nous lire le début de votre livre, si vous le voulez bien. On entend très souvent et de façon récurrente comme un refrain « Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne »,« Non » ou « Oui » qui ponctue de façon très rythmée votre livre. Vous l'avez construit comme une chanson, comme un livre musical ?
Enfin, c'était pas très conscient, mais alors, oui, je pense que c'est. Oui. Non, mais je me suis aussi, j'avais lu aussi un livre qui m'a assez marqué de Oliver Sacks qui s'appelle Musicophilia, je crois. Enfin, c'est un neurologue qui a écrit sur les maladies ou les liées à la musique. Et donc, c'est vrai que ce personnage, j'imaginais qu'il était envahi, mais vraiment envahi par les chansons de Fréhel. C'est-à-dire, toutes ses pensées sont court-circuitées. Enfin, bon, voilà, c'est pour ça que. Ça vient régulièrement, ouais.
Alors on vous écoute. Lire le début du vent dans la bouche.
Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne. Oui, je dirais ça. Debout sur l'estrade, face à la foule en mitouflée. Je commencerai comme ça et en avant la musique. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on chante les yeux. J'ai 56 ans. Sur une estrade, improvisée avec les moyens du bord, des caisses de savon trouvées là et empilées les unes sur les autres au coin de la rue des Abbesses et de la rue Le Pic, je chante mes succès de toujours. Le cheveu en bataille, la chemise en vrac. Le trou de texte me hante comme un cauchemar. Je répète ces phrases depuis tant d'années que je ne sais plus ce qu'elles racontent. Non. J'ai 43 ans, bientôt 44. Je ne chante pas dans mon lit. J'essaie de dormir, mais il y a trop à faire, trop à penser. L'anniversaire de sa mort se rapproche. C'est le moment ou jamais, monsieur le président. Tenez-vous prêt. Moi, je suis prête. J'attends depuis si longtemps. Elle reviendra dans toutes les mémoires. Grâce à moi, je ferai un discours magnifique. Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne.
Michel Rostin, on entend là « Mon tour de France » par Yvette Horner, sans doute un titre assez représentatif de ce qu'elle faisait dans les années 50. À partir du moment où meurt Fréhel, qui est l'héroïne du livre de Violaine Schwarz, eh bien, votre Odette, Yvette Horner, prend son envol, puisqu'Odette incarne, vous le dites dans votre roman, elle incarne un grand pan de la société française des années 50. C'est ce moment-là que vous avez voulu capter, puisque là aussi vous nous disiez quelques informations sur cette personnalité, et en même temps c'est autre chose. Le livre s'appelle L'étoile et la vieille, le livre ne s'appelle pas Le metteur et l'étoile. C'est bien que vous parlez au fond d'autre chose que de simplement cette étoile, Michel Rostin.
Oui, il y a l'étoile et sa forte attraction magnifique, et puis il y a un moment de la vie d'Odette, grande étoile qui oublie et qui fait oublier autour d'elle qu'elle vieillit. Là, on ne parle plus d'Yvette, on parle de nous tous, on parle de toutes les stars, les étoiles meurent, le soleil mourra. Et voilà, et là, il y a un suspense parce qu'elle entreprend un spectacle avec ce metteur. Et puis, de jour en jour, on approche de ce moment où les étoiles sont dans un état incandescent et en même temps sont en train de mourir. Et le suspense, c'est est-ce qu'on arrivera à faire le spectacle ou pas ? Est-ce que l'étoile brillera jusqu'au bout ou pas ? Et toutes les étoiles sont à la fois éternelles et mortelles. C'est un paradoxe terrible.
On assiste effectivement dans L'étoile et la vieille à la préparation du spectacle, avec les répétitions, avec vos discussions, avec vos doutes, le doute du narrateur que vous appelez donc le metteur, qui a pensé annuler chaque jour. Hein, la construction du livre prend comme point d'arrivée le jour du spectacle et remonte dans le temps, J-30, J-15, J-2, etc. Mais à aucun moment le metteur n'a franchi le pas de l'annulation du spectacle, sinon au dernier jour, parce qu'il n'avait plus le choix, il a été obligé d'annuler. Pourquoi ne pas avoir annulé plus tôt ? Pourquoi avoir mis dans ce livre tous vos doutes également ? Ce sans doute que vous avez vous-même traversé, Michel Rostin.
C'est différent. Ce qui s'est passé, le travail que Yvette Horner et moi nous avons fait ensemble ne s'est pas passé ainsi. C'est en cela qu'il y a un roman. Nous avons travaillé, Yvette Horner et moi, puis un souci de maladie a dû interrompre le travail. Et là, nous sommes dans la fiction. Nous sommes dans la fiction, nous sommes dans un tête-à-tête entre une grande étoile, Odette, et Yvette est une grande étoile. C'est pour ça que c'est magnifique pour moi qu'elle m'ait donné tant d'émotions. Et je m'en revendique, je les revendique. Et puis ce metteur qui est devant elle, il y a les intérêts du spectacle, les lois du spectacle qui font qu'on ne peut pas courir le risque de planter un spectacle comme ça. Et puis en même temps, la fascination, la force de cette étoile, le personnage du metteur m'a échappé, puis il s'est laissé aspirer, je l'ai laissé se laisser aspirer par cette étoile. Et puis il y a l'humain aussi. Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est en train de souffrir affreusement de son âge que non, il est vieux ? C'est une question forte, c'est une question très forte pour nous tous. Donc de ce point de vue-là, le livre qui part de l'AF, de l'aura, du charisme des étoiles et qui le célèbre, va aussi vers la question qu'est-ce que nous faisons avec nos vieillesses, avec nos vieux, avec notre prochaine vieillesse à nous. C'est, voilà le chemin un peu du livre.
Moi, je ne peux pas me passer de l'accordéon. Le monde entier ne peut se passer de musique. Ah oui. Ah oui. Il y a une phrase toujours musicale qui passe dans ma tête. Je voudrais ne pas y penser, il n'y a rien à faire.
Michel Rostin, ça c'est une chanson, parce qu'elle normalement c'est instrumental, elle joue de l'accordéon, il est hors norme, mais elle chante aussi, et là, c'est hors norme, tiré de son dernier album date de 2012. Vous montrez bien ce qu'on entend là, dans son chant, dans sa parole, c'est son rapport à l'instrument, le choix de l'accordéon. Elle a choisi l'accordéon quand sa mère lui a dit qu'avec le piano on ne trouvait pas de travail, et en même temps elle dit, vous le faites dire dans ce livre, à quel point l'accordéon est important pour elle. Ben, vous voyez, elle continue de chanter en 2012, Yvette Horner.
Elle jouait magnifiquement et je pense qu'elle jouera éternellement, cette femme. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la femme et la musicienne qu'elle est. Il n'y a pas de doute. Et alors, je vois, elle publie encore des disques hors norme. C'est un disque tout à fait, un CD tout à fait étonnant, avec des titres très, très, très divers, avec des fréquentations de stylistiques très différents. Le livre ne parle que d'une séquence très particulière de la vie d'une grande star qui, évidemment, se nourrit d'Yvette, mais qui, de ce point-là, va souvent loin d'Yvette, loin de la personne d'Yvette, tout en restant très proche, puisqu'il s'agit d'une étoile. Et finalement, toutes les étoiles sont brûlante comme elle.
Et le livre a ce point commun avec les deux autres qui nous intéressent aujourd'hui, Michel Rostin, c'est que lui aussi est construit comme une symphonie, tiens, celui-là, en quatre mouvements, allegro, scherzo, medley et mélodrame, avec des chapitres qui évoquent une composition musicale, de la même façon que l'est, d'une certaine façon, en tous les cas, qu'on le lit, le vôtre, Violaine Schwarz, et de la même façon qu'on lit aussi le livre d'Annie Butor, Comment voulez-vous que j'oublie ?
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. ta barrière de froufrou fausse l'affaire, mais c'est doux, joli môme.
Annie Butor, c'est vous la jolie môme?
C'était moi la jolie môme, oui. Ben oui, j'avais 16 ans et demi. Et bon, je dis sans aucune notion d'agressivité quelconque. Une petite chose qui m'a énervée, c'est que c'était pas Gréco qui avait presque le même âge que Léo, et c'était pas Gréco la jolie môme. Celle qui a beaucoup et très très bien chanté Léo, je tiens aussi à lui rendre hommage à elle, et justice aussi, c'est Catherine Sauvage, qui a été une autre, une Léo Ferré féminine.
Et Catherine Sauvage avait grâce aux yeux de Léo Ferré, qui ne portait pas tout le monde dans son cœur.
Non, pas du tout. Juste une réflexion, si vous permettez, sur ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on a parlé d'Yvette Horner et de Fréhel, donc le monde tout de même de l'accordéon, qui était aussi le monde de Léo. Il ne faut pas oublier le piano du pauvre, donc, et puis Mr. Georgina, qui est entièrement dédié à son accordéoniste. Donc tout cet univers, j'y suis sensible, j'ai vécu aussi là-dedans. C'est pas à l'époque de Fréhel, mais je veux dire que ça faisait partie de notre univers musical.
Et c'est aussi pour cela qu'on retrouve cet univers musical dans votre livre, comme dans les deux autres, Annie Butor. Un livre musical avec des têtes de chapitres qui sont des chansons, avec des chansons qui sont mélangées à votre texte. Il n'y a pas que les chansons qui sont mélangées à votre texte. Il y a aussi les passages d'un manuscrit que vous a laissé votre mère, Quand l'amour m'était chanté.
Tout à fait.
Et puis des extraits d'articles de presse. Donc oui. On voit bien là, vous assumez la partie non fictionnelle, hein.
Moi, j'assume le fait qu'au contraire, tout est vrai. J'ai pas mis roman, hein, c'est un récit, c'est si on veut un témoignage. Et bien au contraire, même dans l'autre sens, je me suis auto-censurée. Parce que, par exemple, pour des lettres, j'ose dire presque des centaines de lettres de Léo merveilleuses, je n'ai pas le droit d'en faire état, ou un dixième. Enfin, il y a des règles juridiques, pour pas dire judiciaires, très précises. Donc, je me suis auto-censurée, beaucoup.
On voit dans ce livre à quel point votre enfance, Annie Butor, était une enfance heureuse.
Tout à fait.
Vous nous replongez dans ce bonheur d'enfance avec des anecdotes, des voyages, voyages en Bretagne, toutes les fréquentations de votre beau-père que vous appeliez Pouta.
Absolument.
Et à 5 ans, vous l'avez rencontré. Hein,
tout
et de
à fait.
Madeleine, qui était, là vous le montrez très bien, un couple fusionnel. Est-ce que vous voulez bien nous lire la rencontre qui a eu lieu en 1950, donc, entre Madeleine et Léo?
Tu vas être souriante, on va voir un monsieur très gentil. Ce banal adjectif restera ancré à jamais dans mes souvenirs, ce jour de notre première rencontre. Je compte sur toi pour être gentille aussi, m'ordonne ma mère essoufflée, me tirant par la main en grimpant l'étroite rue Royer-Collard à l'angle de la rue Gay-Lussac à Paris. C'est en janvier 1950, je viens d'avoir 5 ans, je suis méfiante, timide, pas contente du tout de traverser le Luxembourg au pas de charge, sans même avoir droit à ces beaux ballons aux grappes multicolores vendus aux portes du jardin. Un hôtel vieillot aux murs lézardés, un large escalier de pierre, une porte jaunâtre ouvrant sur une immense pièce jadis blanche. Je revois tout. Cette chambre théâtrale avec ses lourds rideaux de velours rouge dissimulant des fenêtres au bois écaillé, un piano à queue usagé au centre de la pièce, un lit dans un coin, un lavabo ébréché, et tout au fond dans la pénombre, assis près d'une table, croulant sous des livres, des partitions, des papiers, les cheveux ébouriffés, les yeux plissés derrière de vilaines lunettes cerclées, le monsieur était là. Mal habillé, ai-je pensé du haut de mon savoir. « Je m'appelle Léo, » dit-il en prenant sur ses genoux une petite fille réticente, quelque peu apeurée, par l'allure inhabituelle du nouveau compagnon de sa mère.
Et ce piano à queue usagé au centre de la pièce, Annie Butor, c'est ce piano-là sur lequel vous avez vu votre nouveau beau-père créer les chansons. Vous racontez à quel point vous avez vu naître toutes les principales chansons de ces années-là.
Oui, alors là, j'en ai vu que quelques-unes, puisqu'ensuite on a habité Porte-Maillot, boulevard Pershing, et c'est là qu'il a vraiment composé. J'en ai vu très peu. J'ai entendu La Chambre, Marthe à la mule, qui est une chanson tout à fait oubliée, certains disent secondaire, mais c'est après boulevard Pershing, puisque ma chambre était adossée au piano, adossée à, non pas à la bibliothèque, mais adossée au salon, et toutes les nuits, c'était le piano, c'était Léo. Voilà. Donc j'apprenais en même temps que la musique, mais je ne suis pas musicienne, mais j'apprenais par cœur par la force toutes ces paroles.
Souviens-toi des souliers usés, des vendredis, et le poisson qui se rendait sur la table à midi, et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli. Frais ou pas le maquereau, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi.
l'enfance de Léo Ferré, Annie Vittor. Vous vous souvenez de la façon dont il a créé cette chanson? Vous vous souvenez?
Pas celle-là particulièrement. Mais vous savez, je me suis un petit peu fermée après tous les drames, tout ce qui s'est passé à la maison. Et là, j'écoute Léo, bien entendu, mais quelquefois, quand j'entends des chansons dans un magasin ou n'importe quoi, je sors. Si j'entends Jolie Môme ou d'autres, je sors. Je n'écoute pas. J'ai tous les disques de Léo, tous dédicacés depuis les premiers jusqu'en 68. Mais je ne les écoute pas. Je les réécouterai peut-être un jour. Mais quand la cicatrice sera vraiment faite, ça me fait mal. Je les trouve merveilleusement belles. Et il avait un talent fou. Et j'étais inconditionnelle de mon Léo. Et comme j'admire aussi le Léo qui a suivi, qui était différent. Mais ça me fait encore un peu trop de peine à chaque fois que je l'entends.
Oui, parce qu'on a parlé de l'enfance heureuse, d'un vrai bonheur. Il y a deux parties dans votre livre.
Excusez-moi, il n'y a pas triste sensation que, je ne sais plus quel poète a dit, que les souvenirs heureux dans les jours de malheur. Alors non pas que j'ai des jours de malheur, mais enfin j'en ai traversé de malheur. Et tous les souvenirs heureux étaient encore plus difficiles à supporter. Parce que...
Comment voulez-vous que j'oublie ce titre emprunté à Apollinaire?
Voilà, et qu'il a mis en musique dans la chanson du mal-aimé. C'est impossible.
Parce qu'effectivement, après cette enfance heureuse, il y a eu l'effondrement. On a vraiment, dans votre livre, l'impression d'une croisière et d'un naufrage, ou d'un paradis et d'un enfer. Oui. Ce qui s'est passé, c'est le tournant a été dans le début des années 60, Annie Vittor, l'adoption par vos parents, enfin par votre beau-père et par Madeleine, votre mère, d'un bébé chimpanzé. Il faut dire qu'ils adoraient les animaux, ils étaient entourés d'animaux, ils avaient des animaux partout dans la maison. Mais ce bébé chimpanzé va progressivement occuper tout l'espace, les pousser à la folie. Ça, c'est le premier truc peut-être le plus important. Et puis, il y a la célébrité aussi.
Oui, exactement. Il y a la célébrité et il y a les parasites. Parce que j'ai été à cette école-là relativement tôt, ça m'a servi pour toute ma vie. C'est-à-dire que les parasites, quand on a de l'argent, de la célébrité et des parasites, et qu'on a les moyens d'ailleurs financiers d'aller au bout de ces folies, il n'y a pas de raison. Les gens, ils veulent flatter pour s'introduire près de la vedette. Donc ils n'avaient plus aucune barrière. Et les gens sincères, il y en avait très peu. Les amis, il y avait Catherine Sauvage qui leur disait attention, il y avait Benoît de Groult, Paul Guimard, qui étaient et sont restés jusqu'au bout, et Benoît encore maintenant, des amis sincères qui nous ont suivis tout le temps, mais qui n'en pouvaient plus. Et tout le monde attendait le drame. Donc il y avait à la fois le chimpanzé, mais je pourrais vous en parler pendant des heures, de l'éducation d'un chimpanzé.
C'est très présent dans le livre, c'est assez stupéfiant d'ailleurs.
J'ai rien contre les chimpanzés, j'adore les animaux comme eux, ça c'est évident, alors que je pourrais ne pas aimer les chimpanzés. Mais c'est la manière dont ils l'ont élevé, et surtout l'argent qu'on avait à ce moment-là, à partir de 61, de l'Alhambra, et tous les parasites, et ça j'insiste, c'est ça qui les a... Ils ont commencé tous les deux, chose que je n'aurais jamais cru, à avoir un peu ce qu'on appelle la grosse tête. Mais je crois que c'est assez courant dans ce métier. Il paraît que Brassens ne l'avait pas. Mais bon, il y en a beaucoup qui l'ont eu.
Et la grosse tête, comme vous dites, plus le chimpanzé, ça fait beaucoup.
Ça a
détruit totalement leur couple. Et vous racontez ces dernières années séparées, extrêmement dures. Votre livre est très, très émouvant de ce point de vue-là.
Merci.
Ce passage des années de bonheur aux années de malheur, Annie Vittor.
Merci.
Tant que nous écrirons sur les arbres malades de l'automne, les oiseaux pourront chanter, nous pourrons nous aimer. Je suis celui que tu attends.
Annie Vittor, comment voulez-vous que j'oublie? Madeleine et Léo Ferré, 1950-1973, c'est publié chez Phébus. Michel Rostin, L'étoile et la vieille, est un roman publié aux éditions Kéro. Et Michel Rostin, vous serez, comme vous l'êtes aujourd'hui, là, à Lille, en ce moment, mais vous serez à la librairie Le Furet, à Lille, ce soir à 17h, pour dédicacer votre livre. Violaine Schwartz, le titre de votre livre, c'est Le vent dans la bouche, chez POL. Et Violaine Schwartz, vous êtes en ce moment, en tant que comédienne, au Théâtre des Amandiers à Nanterre, où vous jouez dans Torquato Tasso, et c'est jusqu'au 27 avril. Je rappelle aussi le disque que vous avez enregistré avec la contrebassiste Hélène Labarrière, J'ai le cafard, qui est un disque sorti chez Inaccord. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à la Grande Table.